Youp là.
Campagne, bonjour. Quatrième journée en Moselle. Première étape à Phalsbourg avec l'ouverture depuis janvier dernier d'une école alternative à l'image d'autres écoles qui cherchent à s'éloigner du cadre classique de l'apprentissage et de la standardisation au profit d'une relation plus ouverte, plus respectueuse sur le monde, la nature et les autres. Les méthodes employées peuvent être toujours discutées évidemment et sans porter de jugement. Je vous informe de cette expérience qui a pris le nom de Sentier d'enfants, Sentier au pluriel, et qui se partage pour l'instant en deux classes. Une de maternelle pour les 3-6 ans et une primaire pour les 6-12 ans. Les fondamentaux de cette école, comme le précise Camille, correspondante des carnets, reposent sur du matériel Montessori et des fichiers Fresnel. Le site, c'est sentierdenfance.wixsite.com. En Moselle, il existe un site industriel condamné à être un lieu de mémoire de la grande économie d'antan, Bataville. Une ville entière qui était construite pour assurer la production en chaîne des fameuses chaussures Bata. Au cœur de ce complexe en sommeil, pointe de nouvelles orientations, une seconde vie pour ainsi dire, comme c'est le cas avec la fabrique autonome des acteurs, présentée par Daria Lippi, première invitée. Hiatus est une revue rare, encore une. D'abord, elle ne paraît qu'une fois par an, ensuite ses contributeurs viennent de partout, enfin son contenu interroge la société et les hommes qui l'animent. Explication tout à l'heure avec l'un des fondateurs de l'association Hiatus, Gaëtan Odesselli.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Daria Lippi, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Daria, c'est une aventure extraordinaire que vous avez imaginée avec Barbara et avec Juliette, que vous avez construite en 2015 en investissant une partie d'un site extraordinaire qui a une longue histoire économique, oui, industrielle de 70 ans, c'est Bataville.
C'est-à-dire... la fabrique de chaussures Bata, c'était une des nombreuses, hein. Il y en avait une trentaine, peut-être même plus dans les années d'or dans le monde entier. Et ce sont des sites industriels qui ont la particularité d'être implantés en pleine campagne. Donc ici, nous sommes au milieu de la forêt, au bord de l'étang. Et les bâtiments d'usine sont des bâtiments style Bauhaus en briques rouges et en verre. Et donc, on travaille dans ces bâtiments industriels très grands, très beaux, avec vue sur les arbres. C'est un peu comme si on était dans une immense cabane en ciment, mais dans les arbres.
C'est une cité ouvrière utopique, parce qu'il y a eu beaucoup d'utopies qui sont concrétisées, comme l'Empire Schneider au Creusot, avec Thomas Bata, originaire de Tchécoslovaquie, si mes souvenirs sont bons.
Tchécoslovaquie, c'est ça.
Qui décide en 1931 d'implanter en France une de ses cités totalement autonome. Pendant 70 ans, le groupe Bata va produire 14 milliards de chaussures. Alors vous, vous arrivez là, c'est un outil de travail. Qu'est-ce que c'est au juste Bataville pour vous?
Bataville, c'est un coup de foudre, je dois dire, et c'est le cas pour moi, mais aussi pour les très nombreux artistes qui composent le réseau de l'AFA. C'est-à-dire que chacun qui vient ici est pris d'une envie irrépressible de créer à peu près partout. C'est un peu comme si on avait un immense décor grandeur nature sur 6 hectares.
Ouais.
Il y a aussi la nécessité pour le travail que nous menons d'avoir un endroit un peu retiré,
ouais,
un peu un oasis. Et en fait, ce qui se passe à Bataville, c'est pas juste qu'on est à la campagne, c'est aussi qu'on a un peu l'impression de faire un saut dans l'espace et dans le temps. L'architecture est très typiquement de l'Est. Et disons que Bataville s'est un peu arrêté dans les années 70. Donc par exemple, la pièce dont je vous parle a les murs couverts en liège pour la moitié et couverts de moquettes pour l'autre, marron. Donc on est vraiment dans un décor qui nous permet de nous abstraire un peu de ce que nous faisons tous les jours et de nous plonger dans le travail que nous faisons ici, qui est un travail assez pointu de recherche et de formation et de création, bien sûr.
Mmh.
Et donc c'est tout à fait propice, on va dire, à une pause, et à la fois une pause stacanoviste, on va dire, mais un endroit où on peut se détacher de ce qu'on fait normalement.
Mais obligatoirement, Daria, dans cette fabrique autonome des acteurs, comme vous l'appelez, vos créations sont conditionnées par l'histoire du site, qui est monumentale.
Tout à fait. Alors, pour commencer, évidemment, nous créons sans technique. Nous avons assez peu d'électricité dans cet endroit.
Ah oui.
Donc, nous créons in situ, comme on dit, et on profite de tous les espaces, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient naturels, donc forêt, la salle de bal. Nous travaillons en fait dans la salle de bal des ouvriers, qui est un endroit absolument magnifique, mais aussi le grand dépôt qui fait 10 000 mètres carrés. On a créé dans tous ces endroits. Mais disons la création qui se confronte le plus au patrimoine immatériel de cet endroit, donc à son histoire industrielle, ouvrière, aux souvenirs, etc. C'est MAPS, qui est un peu un ovni. C'est un en même temps un jeu vidéo, donc publié en ligne, et en même temps un catalogue des ressources et des œuvres que l'AFA produit depuis 2015. Et c'est donc un jeu exploratoire. On se promène dans les cartes de Bataville et on découvre des boîtes. Et dans ces boîtes, il y a soit des documents qui proviennent de l'histoire de Bata, des photos, des films, des pages, des magazines. Il y avait un magazine mensuel qui s'appelait le Bataville où tout était raconté, tout ce qui se passait dans l'usine. Et nous en avons des nombreux exemples. Ou alors on découvre ce que nous faisons, que ce soit des œuvres créées exprès pour le site, comme des films par exemple, ou alors des outils que nous développons ici quand nous faisons des formations. Voilà, donc c'est un peu l'œuvre qui se confronte à cette interaction qu'il y a entre une très vieille histoire industrielle et les habitants qui sont encore là et qui sont des ex-ouvriers, et les artistes qui arrivent aujourd'hui et qui veulent réinvestir ce site qui est plutôt abandonné, il faut le dire.
Alors, Daria, concrètement, MAPS, The Game, va être mise en ligne quand ?
C'est en ligne.
Ah.
Et l'adresse, c'est faa-maps.eu. Et c'est gratuit.
Formidable. Alors, on va le tester, on va mettre en ligne le lien, évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent l'utiliser, et puis surtout la Fabrique Autonome, fabriqueautonome.org, et puis Fabrique Autonome des Acteurs pour la page Facebook dans l'histoire de ce site extraordinaire de Bataville. Merci beaucoup, Daria.
Merci à vous, Philippe.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Entre deux paroles en Moselle, nous ouvrons une parenthèse en direction du Pas-de-Calais et des Hauts-de-France pour répondre à l'appel lancé par Martin, membre de la FIP Hauts-de-France, qui aide à l'installation de maraîchers bio dans cette région. C'est sur un espace de 4 hectares obtenu grâce à Terre de Liens qu'est né un espace test qui accueille les candidats, jeunes ou moins jeunes, au maraîchage. Ici, à Ambricourt, très précisément, la FIP, Association de Formation et d'Information pour le Développement d'Initiatives Rurales, propose une formation diplômante en permaculture et en agroécologie. Et Martin reconnaît que les mots peuvent être trompeurs et qu'il est difficile de présenter cette démarche de façon synthétique. En fait, c'est un peu l'épaisseur humaine qui peut souffrir l'aridité d'un communiqué. Du coup, je lui laisse la parole, je cite « On a un dispositif rodé qui envoie du bois, ça au moins c'est clair. On a des terres à dispo, une équipe d'accompagnateurs et un maraîcher au taquet pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le métier. Or, le département manque cruellement de maraîchers bio et les candidats font défaut. D'où ce coup de pouce. Allez sur le site afiphaudefrance.com. Gaëtan Nodesselli, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes un des membres fondateurs de la revue Hiatus,
H-I-A-T-U-S,
née en 2012. Une revue sans pub, totalement associative, avec que des bénévoles.
Exactement, voilà. Depuis bientôt 7 ans maintenant.
Ouais. Vous avez tenté de créer des emplois salariés, vous êtes revenu sur votre projet, pourquoi ?
Tout à fait, donc c'était moi l'emploi salarié,
ah, pardon.
Moi, j'étais l'initiateur
oui.
pour pouvoir développer des actions. Et au bout d'un an, et demi... on est entré dans une logique un petit peu commerciale puisqu'il fallait assurer le salaire et on s'est dit qu'on perdait nos valeurs et on a décidé de se réorganiser autrement pour partager toutes ces tâches parmi plusieurs personnes. Donc plus de salariés et que des bénévoles.
Mmh. Lorsque nous avions reçu un courrier de votre équipe il y a un petit moment de cela, nous parlant en Moselle donc de votre revue, il était question d'interroger nos façons de vivre ensemble autour de thématiques variées selon différents axes de réflexion avec des articles, des reportages et puis des expérimentations littéraires artistiques. Vous êtes toujours dans la même gamme de travail ?
Exactement, exactement. On essaie de prendre des sujets qui sont très loin de nous, qui concernent des gros groupes sociaux, pour ensuite se rapprocher de l'individu et essayer par là de démontrer qu'il y a un altruisme nécessaire et un vivre ensemble qui est important dedans.
Les contributeurs de l'association et surtout de la revue sont mosellans ou viennent de toutes les régions ?
Alors, à la base, c'est Nancy et Metz. Donc, au début, les 15 premiers ne venaient que de ces endroits-là. Et puis, par la suite, on a beaucoup d'étudiants. Ce qui fait que maintenant, on a des bénévoles, des contributeurs qui sont aux quatre coins de la France et même aux quatre coins du monde, puisque les étudiants sont partis à l'étranger.
Oui. Vous proposez des ateliers d'écriture ?
Oui, alors on en a proposé. En ce moment, c'est un peu en arrêt, puisque en effet, c'était moi, en étant salarié, qui pouvait à l'époque animer des ateliers d'écriture. Et on a essayé justement d'avoir une approche d'éducation populaire et de ramener l'écriture dans plein d'endroits différents. Ça peut être dans des universités pour les élèves ou les profs, en maison de retraite, en association de quartier, et on a essayé voilà, de s'écarter un petit peu à 20-30 km de Nancy ou de Metz pour proposer ces ateliers d'écriture.
Et vous dites il s'agit de provoquer la création et de désacraliser l'écriture.
Exactement. Exactement, nous on arrive avec des bénévoles qui sont en Master 2, parfois même dans un cursus littéraire, et qui ont vraiment peur de prendre la plume et d'écrire, soit... Puisque l'écriture, c'est avant tout une note qu'on va donner à la fin, donc il y a la peur de ce jugement, et pour ça, on anonymise les textes, ou en tout cas, on favorise l'accès à l'anonymat et au pseudonyme. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un acte très important, lourd de sens. Or, nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, qu'il peut y avoir autant de poésie, des fois, dans une liste de courses, que dans un alexandrin, que dans un sonnet. Donc on essaie vraiment de désacraliser, de se dire qu'il y a plein de manières de faire ensemble et d'écrire ensemble.
Oui. Alors aujourd'hui, vous vous réinventez, alors sous quelle forme et dans quelles conditions ?
Alors, il a fallu, c'est un projet où on essaie d'être très exigeant, pour à la fois sur l'aspect graphique et sur l'aspect littéraire de rédaction. Donc au début, on était surtout trois à vraiment avoir une direction artistique et une direction de publication pendant plusieurs années. On a fait plusieurs revues et maintenant on s'est dit le projet est assez assis. Il y a assez de jurisprudence, d'expérience pour qu'on puisse autonomiser un nouveau groupe de rédaction pour qu'il reprenne le projet à sa sauce tout en conservant un petit peu les fondamentaux de la revue. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, l'équipe de rédaction est constituée de 5 personnes qui, à eux 5, remplacent une direction artistique et une direction de publication. Mmh. Et ça a marché. Moi, j'aime à dire que Hiatus, c'est un petit roman où on essaye de ne pas avoir de personnages principaux ou de personnages principaux. Et là, on est très fiers tous ensemble de se dire qu'il y a le dernier numéro de la revue qui est sorti sans aucun membre fondateur dedans. Mmh. Moi, j'étais pendant un an éloigné de l'association et ça s'est passé très bien. Il y a eu des choix différents qui ont été faits, mais le projet a été réapproprié et tous, on est vraiment très fiers de cette manière participative, collective de fonctionner.
Mmh. Prochaine édition des parutions de la revue ?
Alors, prochaine édition, on est en train de penser à un nouveau format. Notre revue actuellement est en format A4, avec 48 pages. Et maintenant, on pense plus à un MOOC. Pour ceux qui ne connaissent pas le MOOC, c'est le mélange de magazine et de book, ouais. Avec un format un peu plus grand. Et aussi avec des articles plus longs. On puisse laisser 6, 7, 8 000 signes, 9 000 signes à quelqu'un et à un sujet qu'il mérite.
Intéressant, on l'attend avec impatience. Les éditions hiatus.com, revue Hiatus pour la page Facebook pour suivre l'association Hiatus avec tous ses bénévoles. Merci Gaëtan.
Exactement, merci à vous, merci beaucoup.
Les carnets se préparent à une semaine spéciale la semaine prochaine dans le cadre des 60 ans du jeu des 1000 euros et nous terminerons la saison pour rappel dans le département du Morbihan.